Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au Nicaragua où se tiennent le 6 novembre prochain des élections présidentielles pour lesquelles Daniel Ortega est candidat à un troisième mandat successif et des élections législatives. Le tout dans un climat de tension qualifié de farce par l'opposition qui le boycotte. Le scrutin suscite des inquiétudes jusqu'à Washington. En l'absence d'observateurs internationaux et d'opposition réelle, nos invités en duplex depuis les studios de nos confrère de Radio France Poitou, Kevin Partenay, rattaché au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, responsable pédagogique de Sciences Po Campus Poitiers et membre de l'Observatoire politique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, l'OPALC. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio avec moi à Paris, Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Amérique latine, auteur de nombreux ouvrages, dont Les enfants cachés du général Pinochet, paru aux éditions Don Quichotte. Bonjour.
Bonjour.
6 millions d'habitants, deuxième plus pauvre pays du continent américain derrière Haïti. Les élections du 6 novembre au Nicaragua méritent un peu d'attention alors que le lent glissement de ce petit État d'Amérique centrale vers la dictature semble quasiment passer inaperçu sur la scène internationale. Le contexte, un président, Daniel Ortega, qui au fil du temps a retaillé la Constitution comme bon lui semblait, a pris le contrôle d'un nombre sans cesse croissant d'institutions, du Parlement à la Cour suprême en passant par le Conseil supérieur électorale et nommé son épouse comme aspirante à la vice-présidence. D'aucuns comparent aujourd'hui le Nicaragua au royaume du but. Kevin Partenay, le 6 novembre, un jour triste pour la démocratie latino-américaine ?
Oui, un jour triste pour la démocratie latino-américaine, comme aujourd'hui on peut le voir malheureusement dans beaucoup d'autres pays du continent, mais triste pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que la déception est à la hauteur des espérances qu'avait évidemment donné le sandinisme, la révolution sandiniste de 79, et que depuis les années 2000, c'est pas simplement depuis le retour au pouvoir de Daniel Ortega en 2006, que la démocratie est progressivement détricotée au Nicaragua par diverses actions, notamment une instrumentalisation de la Constitution. Aujourd'hui, et pour les élections du 6 novembre, on a pu voir que les atteintes à la démocratie ont été encore rehaussées d'un niveau en bafouant les droits de l'opposition, en limitant la campagne électorale, tout ça sur un fond de constitution d'un régime qui n'est plus celui d'un homme, mais qui est celui d'une famille. Donc comme vous l'avez précisé, hein, c'est sa femme qui est également candidate à la vice-présidente. On parle beaucoup de dynastie familiale et c'est véritablement le cas. Ses enfants sont très proches du pouvoir, voire même assument certaines responsabilités publiques. Donc l'organisation de ces élections-là a été qualifiée à juste titre de farce électorale parce que toutes les garanties qui sont nécessaires, en tout cas, au déroulement d'un scrutin propre et légitime ne sont pas réunies désormais et le fait que l'OEA ne soit pas présente est en quelque sorte un point supplémentaire, en tout cas, à ce scrutin qui ne réserve désormais quasiment plus aucune surprise.
Maurice Lemoine.
C'est évident que le Nicaragua, c'est un pays qui, c'est un petit peu le, comment dire, c'est l'enfant qu'on cache de la gauche latino-américaine. Tout le monde est toujours un peu gêné avec le Nicaragua et d'une manière générale, dans les observateurs, les journalistes, les universitaires, quand on parle des gauches latino-américaines, on parle pas du Nicaragua, on est un peu embêté. Hein. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment bien des situations simples, c'est-à-dire où il y a le blanc, le noir, le bien, le mal, les situations carrées, le Nicaragua, c'est évidemment pas un pays auquel il faut s'intéresser. Dans la mesure où au traditionnel clivage droite-gauche se greffe un conflit fratricide entre ex-frères amis, entre sandinistes historiques. Dans le registre, effectivement, les sandinistes ne sont plus ce qu'ils étaient, mais enfin 35 ans après, qui d'entre nous est encore ce qu'il a été au moment de la révolution sandiniste? J'entendais le mot de dynastie, on peut l'employer, on peut aussi l'employer vis-à-vis des États-Unis où on a eu Bill Clinton, puis Hillary Clinton, où on a George Bush papa et George Bush fils. Donc voilà.
Hillary, on l'a pas encore.
On l'a pas encore, mais je veux dire, on est quand même dans des histoires. Effectivement, vous l'avez précisé, c'est la troisième mandat consécutif éventuellement de Daniel Ortega. Je précise que il est tout à fait possible et vraisemblable que Angela Merkel se présente bientôt pour son quatrième mandat. Elle aura gouverné plus que Chavez, plus qu'Evo Morales, plus que Daniel Ortega, et ça ne trouble personne. Et je ne dis pas qu'Ortega est parfait. Tout le monde sait que.
Mais elle a pas modifié la constitution, Angela Merkel, pour pouvoir rester au pouvoir et bénéficier du soutien de la population allemande, juste.
Non, c'est vrai. Mais alors, il faut, pour le coup, replacer le Nicaragua dans son contexte, y compris dans son histoire, ce qui est un peu long, parce qu'il faut repartir à 79. Je ne sais pas si on aura le temps.
Non, mais si, ça me paraît important pour les auditeurs, parce que malheureusement, l'Amérique latine est sortie des écrans radars depuis un certain nombre d'années, et particulièrement depuis la fin de la guerre froide, Maurice Lemoine.
Tout à fait. Et c'est précisément la fin de la guerre froide, Alors, on va essayer de se partager le temps avec
Kevin Partenay,
notre ami. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait sur la même ligne, et c'est bien après tout. Effectivement, le front sandiniste, c'est le grand écart permanent. C'est par exemple l'appartenance à l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, qui a été créée par Chavez et Castro, mais c'est en même temps un traité de libre commerce avec les États-Unis. C'est à la fois un discours anti-impérialiste assez virulent, mais c'est aussi finalement un néolibéralisme, mais auquel se greffent des politiques d'assistance. Alors, l'assistentialisme. Évidemment, on va nous dire, le Nicaragua a une politique assistentialiste. Cela étant, moi j'étais présent lors des élections de 2011, les dernières, et j'attire votre attention sur un fait, c'est qu'à l'époque, déjà, on a prétendu que les élections n'avaient pas été tout à fait régulières. Mmh. Pour avoir été présent sur place, je vous assure que Daniel Ortega a bien été élu avec 62% des voix, ou peut-être 61% en 2011, et que sur la présence de l'EA, et je vais en terminer là pour pas monopoliser la parole, en ce qui concerne l'EA, moi j'ai assisté là aussi à la dernière élection présidentielle au Honduras, où il y a eu là manifestement des fraudes extrêmement importantes, y compris dénoncées par un observateur de l'Union européenne. Et l'OEA et l'Union européenne ont avalisé l'élection sans rien dire. Donc, de mon point de vue, la présence de l'OEA et de l'Union européenne ne sont pas des garanties d'élection fair play.
Alors, je voudrais revenir, et je pense que Kevin Partenay a probablement envie de réagir à ce que vous venez de dire. La tenue des élections, le déroulement, c'est une chose. Ce qui est important tout de même, c'est de comprendre ce qui se passe. Et les ficelles tirées par Daniel Ortega, on a quand même vu récemment le leader de l'opposition être, je parle sous votre contrôle à l'un et au l'autre, destitué de ses fonctions par le Conseil supérieur électoral, avec volonté de Daniel Ortega d'y mettre une personne qui lui était davantage favorable. Les fondamentaux de la démocratie, Kevin Partenay, je me tourne vers vous, sont, qu'on le veuille ou non, et on reviendra sur le bilan de Daniel Ortega, parce qu'il y a des choses, et on parlera aussi du Venezuela, mais en tout cas, bon, les fondamentaux démocratiques au Nicaragua ne sont pas ceux que l'on trouve, ou qu'on peut espérer trouver ailleurs, Kevin Partenay.
Non, bien sûr. Alors, c'est vrai que je pense que là où Maurice Lemoine a tout à fait raison, il faut replacer le Nicaragua aussi dans un contexte plus général où d'autres, enfin, il faut pas le diaboliser et voir ce qui se passe aussi par ailleurs. Ce qu'on peut mettre en avant, quand même, du point de vue de l'analyse de l'état de la démocratie dans le pays, c'est tout ce qui a été mis en place depuis 2000 avec le pacte justement Ortega-Aleman et puis depuis le retour au pouvoir de Ortega, où vous avez, j'aime toujours bien analyser en prenant Guillermo O'Donnell, qui est un grand politiste qui a beaucoup analysé l'Amérique latine, la démocratie de deux façons, c'est-à-dire d'une façon horizontale et une façon verticale. Verticale, c'est la façon dont les gens vont vous élire. À ce titre-là, Daniel Ortega a mis en place, et notamment pour ces élections-là, une série de réformes à la loi électorale qui, quand même, ont tendance à jeter quelques soupçons, notamment sur les processus d'identification par rapport aux cartes d'identité, par rapport à la capacité de contester les résultats, par rapport à la capacité de contester et d'objecter sur le padrón électoral, les listes électorales, qui peuvent générer tout un lot de problèmes que l'OEA est en capacité de vérifier et d'observer, en tout cas. Donc, toutes ces choses-là, et puis la capacité de se réélire, la réforme qui a été posée en 2000, justement, avec le pacte Aleman, de pouvoir être élu à 35% des voix, si vous avez un écart de 5% avec le second. Bref, tout ça a tendance à baisser la légitimité, en tout cas, de l'élection et de l'expression et du suffrage populaire. Ça, c'est la dimension verticale. La dimension horizontale, c'est la façon dont les institutions collaborent en respectant les critères de démocratie. C'est-à-dire, d'une part, séparation des pouvoirs, l'indépendance par rapport aux partis politiques. Et sur ces deux aspects-là, on peut voir très nettement que le FSLN, via Daniel Ortega, a verrouillé de très nombreuses institutions, notamment des institutions extrêmement importantes pour la République nicaraguayenne, de la Cour suprême de justice au Parlement, où le Parlement est depuis de nombreuses années à la botte complète de Daniel Ortega, comme la Cour suprême de justice qui lui a fait passer toute une série de réformes et qui lui a même permis de se réélire en 2011 avant la réforme constitutionnelle de 2014. Donc sur ces deux aspects-là, je crois que il faut quand même émettre un jugement sur la qualité de la démocratie aujourd'hui au Nicaragua, qui est le fruit d'un homme qui verrouille le pouvoir, et pas simplement d'un homme, mais aussi de son épouse, Rosario Murillo, qui est présente au pouvoir depuis de très nombreuses années, où même Daniel Ortega lui-même dit que la répartition du pouvoir se fait à 50-50. Et ça pose un certain nombre de problèmes, et je pense que c'est pas forcément une erreur de qualifier aujourd'hui, alors vous avez parlé de dictature, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas de durcissement du régime, en tout cas, voilà, l'approximation d'un régime très clairement autoritaire.
Alors, Maurice Lemoine, vous souhaitez...
Je vais vous donner une autre version possible. hein, parce qu'on est après tous des observateurs, ni l'un ni l'autre, on ne détient la vérité. Sur ce qui s'est passé en 2011 avec la modification de la Constitution pour que Daniel Ortega puisse se représenter, effectivement, on peut y mettre des réserves. Je veux juste rappeler, et c'est pas pour mettre tout sur le même plan, que quasiment au même moment, on a fait la même chose en Colombie pour permettre la réélection d'Alvaro Uribe, ce qui n'a pas déclenché un scandale international, qu'on a fait la même chose au Costa Rica pour permettre la réélection d'Oscar Arias, qui est particulièrement apprécié dans la communauté internationale, et que ça n'a pas posé de problème, mais qu'en même temps, effectivement, on peut discuter. Mmh. Je voudrais revenir quand même sur le point que vous avez soulevé sur la prochaine élection là, qui arrive, et avec l'élimination de quasiment de l'opposition. Et là, pour le coup, je vais vous donner une autre version des faits, l'autre version possible. Il y a actuellement dans l'opposition un Conseil national pour la démocratie qui est constitué de plusieurs partis, dont le plus important, le Parti libéral indépendant et puis le mouvement de la rénovation sandiniste, hein, qui sont les sandinistes dissidents, on va dire. Bon. Le problème vient de ce que cette coalition est en crise. Et en particulier, le Parti libéral indépendant est en crise. Il éclate. Ça fait 5 ans que ce parti vit dans un conflit pour la direction du parti. Toutes choses égales, et je vais le dire en souriant, il se passe au sein du Parti libéral indépendant au Nicaragua, ce qui s'est passé au moment de la nomination du secrétaire général du Parti des Républicains entre Juppé, Copé, Sarkozy, etc. Sauf que là-bas, c'est arrivé à un tel point que c'est allé jusqu'à la justice. Et effectivement, c'est la justice qui a tranché. Et qui donc a donné la direction du parti à quelqu'un dont je ne vais pas vous dire s'il est plus sandiniste ou danieliste. Mais en tout cas, c'est l'opposition qui, par sa crise, se met en position de dire, de donner à un juge la possibilité de décider qui va être le président du parti. À partir de là, on accuse les sandinistes de manipulation et je ne suis pas trop sûr qu'on peut faire ça. Ensuite, vient venir assez rapidement l'affaire des 28 députés qui sont, destitués, chassés du Parlement par Daniel Ortega. Ce qui n'est pas tout à fait juste non plus. À la suite de cette crise du Parti libéral,
ils ont eux-mêmes démissionné parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le leader qui leur était proposé.
Oui, mais voilà. Mais c'est-à-dire, c'est eux qui sont allés en justice et qui ont perdu. Bon. À partir de là, effectivement, ils sont mécontents. Et donc, c'est pas qu'ils se retirent. C'est que, là, il faut examiner la loi électorale au Nicaragua. On en pense ce qu'on veut. C'est que le siège d'un député n'appartient pas au député, il appartient au parti. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se mettent en retrait du parti, ils perdent leur siège de député, mais ils sont remplacés par leur suppléant. De sorte que la formule, après on peut discuter en allant au fond des problèmes pour savoir si la justice a privilégié tel ou tel camp, mais si l'on en juge au respect des règles du code électoral, il n'y a rien à dire. Et a priori, s'il fallait trouver quelqu'un à interpeller, c'est l'opposition, en leur demandant comment ça se fait qu'ils sont dans une crise comme ça, et qui donne effectivement, éventuellement, des armes aux sandinistes.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors justement, l'opposition, on se souvient d'un personnage, d'une femme qui a été aux manettes au Nicaragua au début des années 90, c'est Violeta Chamorro. Comment est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui, Kevin Partenay, cette division de l'opposition qu'évoque Maurice Lemoine? Est-ce que, il y a toujours deux faces à une médaille, d'un côté probablement des difficultés à s'entendre, de l'autre côté, en tout cas c'est ce que j'ai lu pour préparer cette émission, c'est vrai que un verrouillage opéré par Daniel Ortega pour empêcher toute émergence d'une opposition solide. Kevin Partenay.
L'opposition, la polarisation est forte et c'est, on le voit autant au Nicaragua que dans la majorité des pays centra-américains. C'est d'une certaine façon le fléau de la paix, la façon dont la paix a été faite à la fin des années 80, où vous avez Violeta Chamorro qui réussit à défaire, avec l'appui évidemment d'alliés importants, puissants, notamment les États-Unis, à défaire les sandinistes et à arriver au pouvoir et mettre en œuvre le package des réformes libérales que l'on connaît bien des années 90, qui ont infusé quasiment tous les pays d'Amérique latine à cette époque-là, puis s'ensuit d'autres régimes libéraux jusqu'au retour du pouvoir, en tout cas, en 2006 de Daniel Ortega, mais qui avait commencé déjà à poser les jalons d'un pouvoir en faisant des alliances justement avec le gouvernement libéral d'Arnoldo Alemán pour pouvoir justement, et c'est la réforme dont je parlais tout à l'heure, en 2000, abaisser cette capacité, enfin le seuil de l'élection présidentielle.
35%, donc, ça c'est quand même...
35% si l'écart est de 5% avec le second. Mmh. Et c'est pas complètement une coïncidence que Daniel Ortega, en 2006, soit élu à 38% des voix et à Eduardo Montealegre à 29%. Mmh. Je pense que la réforme a été construite aussi de telle façon en réponse à des calculs aussi savants électoraux qui déjà permettaient d'avoir une image assez claire de la possibilité ou non de revenir au pouvoir. Donc ce verrouillage du pouvoir, il a commencé relativement tôt, même en étant en dehors du pouvoir. Aujourd'hui, l'opposition, elle est effectivement très très faible, c'est ce que Maurice Lemoine disait, et à ce titre-là, il a raison. Sur le retrait et la distance du parti et d'Ortega par rapport à la destitution des députés, là, je pense qu'on a un point de désaccord également, mais sur la faiblesse de l'opposition, je crois qu'on peut émettre qu'un constat, c'est son extrême faiblesse, sa fragmentation, parce que tout simplement, on est dans une phase en Amérique latine, même si on est en train de subir aujourd'hui et d'observer un basculement, un épuisement de toutes les politiques économiques à coloration libérale ou néolibérale, et que ces forces d'opposition qui sont dans cette dynamique-là, le régime élitiste qui repose aussi sur des facteurs socio-économiques qui remontent en tout cas aux années qui précèdent la guerre, pour le coup, les empêchent de fournir et d'élaborer, de proposer des programmes cohérents. Donc vous avez des polarisations qui sont extrêmement fortes, avec là en l'occurrence pour le Nicaragua, le Parti libéral indépendant qui reste extrêmement faible et qui ne parvient pas au sein de la coalition nationale à articuler une proposition alternative.
Alors, ces élections, Maurice Lemoine, pendant longtemps, Daniel Ortega s'est opposé à ce qu'il y ait des observateurs internationaux. Finalement, les choses bougent un petit peu. L'organisation des États américains va pouvoir envoyer du personnel pour jeter un œil, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'observateurs. Peut-être on peut...
Oui, là, pour le coup, je vais être prudent parce que les dernières informations sont assez changeantes au fur et à mesure que les heures passent. Donc, je ne vais pas m'avancer sur ce thème-là. Simplement, peut-être qu'il faut faire un tout petit point d'histoire, si vous me permettez, je ne vais pas prendre deux heures, pour expliquer ces polarisations, y compris, effectivement, ce que disait notre ami, les aspects parfois surprenants, même parfois conçus comme aberrants de la politique d'Ortega. Il y a deux choses. Il y a d'abord la scission au sein du sandinisme, entre le sandinisme orthodoxe, Daniel Ortega, et le mouvement de la révolution, de la rénovation.
Oui, parce que finalement, les amis sandinistes de Daniel Ortega, ils ont un peu disparu. Ils se sont même volatilisés dans un climat d'opposition à la politique de l'ancien guérillero.
Les amis sandinistes de Daniel Ortega. La fracture, c'est pas une fracture personnelle, c'est pas la mainmise d'un clan sur le parti. On est 90. Les sandinistes viennent de perdre le pouvoir d'élection vaincu par la fin de la guerre, c'est-à-dire par l'agression des États-Unis par contre-révolutionnaire interposé, la Contra. Bon. Et donc le parti est désorienté. On est par ailleurs à un moment où s'effondre le mur de Berlin et où le bloc socialiste disparaît. Mmh. Il y a donc au sein du parti un grand débat. Mmh. Il y a un grand débat avec une partie des sandinistes qui disent tout ça c'est fini, l'anti-impérialisme c'est terminé, il faut... C'est des débats qu'on a chez nous, qu'on aura plus tard ultérieurement chez nous. Il faut créer un parti de centre-gauche moderne, dynamique, social-démocrate, etc., etc. Et donc, il y a un affrontement idéologique. Et la séparation, elle se fait sur la base d'un affrontement idéologique entre les orthodoxes, que représente Daniel Ortega, et effectivement un certain nombre d'intellectuels, d'artistes, etc., qui vont quitter le parti sandiniste et le front sandiniste et faire la rénovation. Donc, on n'a pas là la mainmise d'un clan. On a la victoire d'un clan sur l'autre et Daniel Ortega reste quasiment seul, effectivement, à ce moment-là, comme dirigeant, ce qui n'est pas tout à fait juste, d'ailleurs, ce que je dis, au sein du Front Sandiniste. Ensuite, il va y avoir le fameux pacte qu'on a évoqué avec Alemán.
C'est-à-dire qu'il va tendre la main à son adversaire pour ensuite, d'une certaine manière aussi, peut-être le trahir, mais on prolongera...
Alors, je vais vous donner la version des sandinistes.
Oui, version très courte.
Version très courte des sandinistes. Jusqu'à 2006 et l'arrivée jusqu'à 1996 pardon et l'arrivée au pouvoir de Alemán, les sandinistes, ils ont joué la réconciliation avec l'Église catholique, avec les paysans, la Contra, etc., etc., etc. Et ils vont prendre langue avec la droite dure. Ils prennent dans leur ça, c'est leur explication que je vous donne. Hein, c'est pas bon. En gros, ils sont menacés de disparaître.
Je vous propose, Maurice Lemoine,
qu'on reprenne
avec vous après la pause. D'accord. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Kevin Partenay et Maurice Lemoine, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Nicaragua où se tiennent le 6 novembre prochain des élections présidentielles et législatives. Nous retrouvons nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France, Poitou. Kevin Partener, attaché au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, responsable pédagogique de Sciences Po Campus Poitiers et membre de l'Observatoire politique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, l'OPALC. Et Maurice Lemoine, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Amérique latine et auteur de plusieurs ouvrages, dont Les enfants cachés du général Pinochet, aux éditions Don Quichotte. Maurice Lemoine, je vous ai interrompu pour finir la première partie de l'émission. Nous évoquions les questions de politique intérieure, les renversements et finalement les conséquences qu'a eu l'effondrement de l'Union soviétique en 1990 sur la politique nicaraguayenne. On évoquait la bipolarisation de la société nicaraguayenne, à croire que finalement ce qui prévalait dans les années 80 avec l'opposition entre sandinistes et la Contra, les autres. Voilà, le pays finalement n'est pas totalement sorti de cette dualité.
Non, tout à fait. Et il y a eu un épisode qui a troublé l'ensemble de la gauche internationale qui s'intéressait au Nicaragua, c'est effectivement le fameux pacte qui a été évoqué par Partenay entre Daniel Ortega, les sandinistes, et Arnoldo Alemán, président qui arrive au pouvoir en 1996, qui est un libéral pur jus, qui est corrompu, enfin c'est vraiment le prototype de ce que toute la gauche déteste sur la planète. Et jusque-là, le front sandiniste avait joué la réconciliation, donc en essayant de se réconcilier avec l'Église, avec laquelle les relations avaient été très, très tendues pendant le conflit, la guerre, puis avec les paysans, dont une partie de la base de la Contra. Sauf que, si on prend cette période, les États-Unis sont toujours dans une logique de désandinisation du Nicaragua. Mmh. Bon. Et donc, le front sandiniste, et là je vous donne la version, la manière dont ils expliquent cette alliance complètement contre nature, ils sont menacés de disparition, donc effectivement ils vont passer ce fameux pacte avec Alemán, au cours duquel ils vont quasiment instaurer, ça a été dit par Partenay, c'est juste un bipartisme, en modifiant la constitution, en permettant l'élection, vous l'avez évoqué avec... Bon. Et eux expliquent la chose en disant, on était en minorité au Parlement, nos adversaires avaient le pouvoir, et avec la volonté de détruire le FSLN, et si on ne passait pas ce pacte, on disparaissait. Et donc on s'est donné la chance de pouvoir rebondir, ce qui s'est effectivement passé quelques années plus tard. Et eux disent, on l'a fait sans plaisir, mais on l'a fait par pragmatisme. Évidemment, ça a jeté le trouble, aussi bien au Nicaragua, puisqu'ils perdent l'élection de 2001 derrière, mais aussi dans la gauche internationale. Et du coup, depuis, se grefferaient là-dessus les affaires liées à l'avortement, mais on n'aura peut-être pas le temps de développer tout ça.
Non, mais c'est simplement pour dire tout de même, et c'est ce qui est reproché à Daniel Ortega, notamment par l'opposition, qui lui reproche donc ses contorsions idéologiques pour reconquérir ou conserver la présidence, son enrichissement. Alors, l'affaire de l'avortement, c'était aussi pour gagner les faveurs de l'Église catholique, particulièrement présente en Amérique centrale d'une part, mais au Nicaragua, où là, finalement, Daniel Ortega décide de mettre fin aux possibilités
de l'avortement. Je vais essayer d'aller très très vite. L'affaire de l'avortement, c'est la droite qui, pour casser le front sandiniste à la veille de l'élection, sort ce projet de loi. Et effectivement, là encore, par pur pragmatisme, et pour pas se mettre à dos complètement l'Église, les sandinistes acceptent. Et donc, effectivement, pour la gauche internationale, ça devient l'ennemi à battre. Je vais juste faire une toute petite parenthèse. On est systématiquement avec l'histoire de l'avortement sur le Nicaragua. Mais vous savez qu'en Amérique latine, il y a seulement 4 pays où on peut avorter. C'est Cuba, c'est l'Uruguay, c'est le Guyana et c'est Porto Rico. Pour l'ensemble des pays d'Amérique latine, on pourrait, à chaque fois qu'on parle d'un de ces pays, parler du problème de l'avortement. Donc, effectivement, c'est choquant. En 2011, j'ai interrogé les femmes nicaraguayennes. Et je suis allé dans les quartiers populaires. Et là, on se rend compte de l'énorme pression, l'énorme présence de l'Église catholique. Des femmes des quartiers populaires vous répondent. Et pour nous, c'est pas le plus urgent. Y compris, il y a celles qui vous disent, mais la vie est sacrée, on n'a pas le droit, Jésus-Christ, etc., etc. Pour nous, c'est pas le plus important dans la mesure où il faut le dire, et je vais arrêter là. Des politiques de santé publique ont été mises en œuvre, politiques d'éducation gratuite. Et dans les quartiers populaires, on vous dit, mais pour nous, ça, c'est plus important.
Alors, pour ce qui est du bilan, justement, je vais aller plus loin par rapport à ce que vous dites, Maurice Lemoine, et je me tourne vers Kevin Partenay. Le bilan de presque 10 ans au pouvoir de Daniel Ortega. Alors là aussi, on parle d'un bilan qui est pas si reluisant. Il a échoué à réduire la pauvreté, qui touche une personne sur deux au Nicaragua, à lutter contre les inégalités. Il n'a pas non plus su assurer un emploi formel à la majorité de la population active. Kevin Partenay.
Bah, effectivement, son bilan est relativement négatif, mais est beaucoup plus reluisant que ce qu'il aurait pu être sans l'appui de son voisin et ami vénézuélien. C'est ce que on disait juste auparavant. Le bilan de Daniel Ortega au pouvoir depuis 2006 va véritablement dans la main avec le gouvernement de Chavez et puis l'appui du Venezuela, où autant d'un point de vue des politiques domestiques, enfin autant sociales que de tout niveau, santé, éducation, que la politique plutôt extérieure, vous retrouverez un lien avec le Venezuela, un lien avec l'ALBA, avec Petrocaribe, avec Albanisa qui s'est installée, et une partie des ressources qui a été utilisée pour mettre en œuvre certains programmes sociaux ont été très largement favorisées et rendues possibles par ce soutien économique et financier du Venezuela. On le voit aujourd'hui, et c'est le cas de beaucoup de pays d'ailleurs, hein, Cuba dans une certaine mesure aussi, le tarissement des ressources venu du Venezuela, met de nombreux États en grande difficulté par rapport aux programmes sociaux qu'ils développaient et leur capacité, en tout cas, à répondre aux attentes des citoyens, ce qui pose en prolongement la question démocratique, c'est-à-dire dans quelle mesure ces régimes-là restent légitimes dans la mesure où ils ne répondent plus aux attentes des citoyens. Ça pose un véritable problème qui est l'effet domino qu'on peut constater aujourd'hui, et le Nicaragua en fait complètement partie. En plus de ça, vient évidemment s'ajouter les problèmes de corruption qui ont été liés justement à tout ce qui a été installé comme structure économique permettant de faire venir l'argent et les ressources vénézuéliennes,
notamment Albanisa. L'argent, je parle sous votre contrôle, c'était 500 millions de dollars envoyés par Caracas chaque année au Nicaragua, c'est cela, Kevin Partenay ?
Oui, enfin, des chiffres, je pense qu'on en trouvera beaucoup et tous très différents les uns des autres, sans avoir, je pense, la moindre idée du montant exact et réel de ce qui arrivait au Nicaragua, comme également, je vous dis, dans d'autres pays, puisque ça, c'est la partie, évidemment, officielle, formelle. Et jamais on pourra probablement savoir ce qui a été apporté par le régime vénézuélien aussi en soutien aux campagnes politiques, au soutien non pas du régime Ortega qui sous-entend un investissement aussi de programmes d'État, mais à la personne Ortega et à son couple pour se maintenir au pouvoir, notamment aussi des ressources pour le parti politique. Donc je pense que ça restera très difficile à dire, mais peu importe, ce qui est à bien considérer, je pense, c'est cette capacité justement à mettre en œuvre des politiques par un voisin influent qui est aujourd'hui une configuration qui est aujourd'hui en train de changer profondément.
Profondément, et la situation du Venezuela, Maurice Lemoine, elle est catastrophique. Autant dire que le robinet est coupé, ce qui signifie des moments difficiles pour le Nicaragua, je ne pense pas me tromper. D'où peut-être aussi, ça permettra de... Enfin, je vous laisse parler là-dessus, après ça on parlera du canal. Du projet
de canal. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec Partenay. Je veux dire, la crise au Venezuela a une conséquence importante au Nicaragua, y compris la crise au Brésil, puisque les crises politiques dans ces deux pays ont provoqué, par exemple, je prends un exemple au passage, l'arrêt de deux grands projets. L'un, c'est la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique construit par le Venezuela. Mmh. Et le deuxième, c'est l'arrêt d'une centrale hydroélectrique financée par le Brésil. Et en gros, on estime que ça fait perdre environ 6500 emplois directs et 18500 emplois indirects. Donc là, effectivement, il y a des conséquences directes. Après, pour m'inscrire un petit peu en faux, je dirais que si c'était la France qui avait aidé le Nicaragua, comme l'a fait le Venezuela, on parlerait d'aide au développement. Ce qui me frappe, c'est que dans ce que je lis, dans la presse quotidienne, dans la presse hebdomadaire, c'est effectivement cette critique féroce de Daniel Ortega. Tous les articles se terminent en vous disant, indépendamment de la polémique sur la représentation de l'opposition, hein, sur lequel j'ai donné une version, tout le monde vous dit, mais il va gagner. Il faudrait aussi se demander pourquoi il va gagner. Alors c'est vrai que structurellement, il n'a pas changé le pays. Mais ça, c'est un reproche qu'on fait à l'ensemble des pays d'Amérique latine. Et sur le fait de, il n'a pas ramené, excusez-moi, je vais être un peu polémique, les travailleurs dans l'emploi formel, on pourrait dire la même chose de la France. Hein, je veux dire, le nombre de pays qui n'arrivent pas à ramener la population dans l'emploi formel, il est quasiment généralisé maintenant, hein, y compris les Chinois ont des problèmes. Bon. Je vais aller très très vite sur les programmes sociaux. Ça veut dire quoi, les programmes sociaux? Effectivement, c'est de l'assistance. Lorsque vous avez le programme Faim Zéro qui donne aux plus pauvres une vache, des poules, un porc, vous allez me dire, enfin bon, tout ça c'est du bricolage. C'est pas si vrai que ça. Je veux dire, moi j'ai rencontré des gens dans la périphérie de Managua qui vous disent, on a eu une vache, et maintenant on a du lait tous les jours. On a du lait tous
mais
les jours.
Loin de moi l'idée de dire que c'est du bricolage, parce que je pense qu'effectivement,
ouais. Non, mais c'est souvent présenté comme du populisme, du clientélisme, etc. Vous avez le plan logement digne, le crédit plan usure pour former des coopératives. Donc, on va pas détailler tout ici. Mais, et là, pour le coup, j'utilise mon expérience de 2011. Mais la situation n'a pas fondamentalement changé. Dans les quartiers populaires, c'est considéré comme un ballon d'oxygène, parce qu'il faut pas oublier que les 16 années de néolibéralisme de Violeta Chamorro à la fin du mandat de Enrique Bolaños ont été dévastateurs pour les plus pauvres. Et si Daniel Ortega est populaire dans les milieux marginalisés, oubliés, c'est parce que effectivement, pour ces milieux, depuis son retour au pouvoir, il y a eu une amélioration. Après, il y a dans les classes moyennes, dans la bourgeoisie, dans les gens qui sont plutôt sur un modèle centré sur un modèle européen, il y a des critiques effectivement parce que la démocratie nicaraguayenne ne ressemble pas à la démocratie ni française ni suisse.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
Sûr. Sur les questions sociales, si je peux juste ajouter quand même une précision, parce que ce qui est à remettre en question, j'irai au-delà de tout de mise en œuvre de programmes sociaux, c'est la dimension très clientéliste quand même qui s'est développée dans les dernières années. Et je crois que n'y a pas besoin de rester beaucoup dans le pays pour voir et entendre des gens dans tous les quartiers ne pas du tout parler ni invoquer les noms qui sont associés à des programmes sociaux, mais de dire voilà, c'est eso es el regalo de Danielito, donc le cadeau de Daniel, où vous avez une dimension justement, enfin très personnelle, du pouvoir et de mise en œuvre de ces programmes sociaux qui n'en sont plus, mais qui sont des ressources données par Daniel Ortega, et les gens le perçoivent comme tel. Et c'est cette dimension-là qui, je pense, d'un point de vue toujours de la démocratie, peut être questionnée. Alors, remise en cause, évidemment, les contextes sont complètement différents, ça, on est d'accord. Du point de vue de la démocratie, on est dans des pratiques clientélaires, c'est difficile à remettre en question.
Il valait mieux être encarté au front sandiniste pour la libération nationale pour recevoir une aide sociale. En tout cas, c'est là aussi ce que j'ai lu, une peut-être presse
bien
orientée,
sûr,
Maurice Lemoine.
D'ailleurs, pour les élections, toute la question liée aux cartes d'identité, vous voyez une discrimination assez nette entre les membres et les non-membres du parti. Ceux qui appartiennent au parti peuvent bénéficier d'une carte d'identité gratuite, alors que les autres vont devoir payer 300 cordobas pour obtenir leur carte d'identité.
À titre de contrepoids partiel, et qui vaut ce qu'il vaut, mais là encore, en 2011, j'ai rencontré personnellement des gens qui m'ont dit « avant, je votais pour le Parti libéral ». Et finalement, grâce à l'éducation, la santé, papa, je vote pour Daniel Ortega.
Alors, il y a quand même un sujet qui fait monter une opposition assez forte et fait descendre les gens dans la rue. Kevin Partenay, c'est ce projet assez fou de construction d'un canal interocéanique à l'instar de ce que le Panama connaît. Donc, un canal au Nicaragua avec un homme d'affaires hongkongais qui est rentré dans la partie. Et puis, finalement, il a disparu. Où est-ce qu'on en est de ce projet assez fou, somme toute?
Eh bien, on n'en est nulle part. C'est bien ça la question. Alors, c'est très étonnant, parce qu'à chaque fois qu'on parle du Nicaragua, au final, on parle beaucoup du canal, alors qu'on en sait très peu de choses et on ne sait absolument pas si ça aboutira, en tout cas un jour. Ce qui est peut-être à mettre en avant plusieurs éléments. La première, c'est que ce grand projet pharaonique, dans ses dimensions, autant dans la géographie qui va être utilisée que les dimensions techniques du canal, par rapport à Panama en tout cas, ont été présentés par Daniel Ortega comme le monument du bien-être absolu qui va favoriser la croissance du pays. Voilà. Autre point qui peut être mis en œuvre, pour faire bref, c'est le problème démocratique, là encore, qui se cache derrière ça, sur la remise en main d'une partie du territoire nicaraguayen à cet entrepreneur chinois, notamment à cette entreprise HKND, pour développer et mettre en œuvre le projet de canal, notamment le creusement de tout la trajectoire du canal. Troisième peut-être point que je voudrais mettre en avant sur ce projet-là, c'est toute la question liée à la dimension sociale, c'est-à-dire la question de la sécurité qui a explosé, rendant les zones, justement, de début des travaux, la zone de Brito notamment, relativement dangereuse. Vous avez une recrudescence de militaires parce que tout simplement des gens ont été expulsés des zones où le canal était supposément censé être creusé. Et vous avez également, du point de vue social, une problématique qui s'est posée puisque tous les emplois qui pourraient être créés par rapport à ce projet-là, la moitié reviendrait à des personnels techniques chinois en l'occurrence. Donc ce qui a posé pas mal de débats dans le pays et une autre raison pour laquelle, parmi beaucoup, les gens sont sortis dans la rue. Alors, on ne peut pas en savoir grand-chose aujourd'hui, puisque, compte tenu des études d'impact environnemental, c'est un sujet, le canal, qui a fait jeter beaucoup d'encre, puisque, pour comprendre les choses très simplement, vous creusez un canal qui va connecter le lac d'eau douce le plus grand d'Amérique centrale, la réserve d'eau douce la plus grande d'Amérique centrale, la Cosicalba, avec des océans salés. Évidemment, ça a engendré tout un tas de conséquences écologiques relativement dramatiques, mais on n'en sait pas beaucoup plus, parce que, d'une part, les études d'impact environnemental ont donner un jugement extrêmement négatif, et en droit international, c'est nécessaire, la validation en tout cas du projet par ces études. Et puis, deuxième raison, que ce projet est excessivement coûteux, on en a parlé de plus de 50 milliards de dollars, sauf que l'entrepreneur chinois qui est censé mener à bien ce projet a fait récemment, pas faillite, mais a perdu une partie assez importante de sa fortune, et ce que vous disiez a plus ou moins disparu du paysage. Donc, beaucoup de questions, à vrai dire, plutôt que des réponses à apporter sur ce projet qui reste pharaonique, mais à cette heure, en tout cas, c'est difficile d'en dire beaucoup plus.
Maurice Lemoine.
Là, on est assez d'accord, en réalité. Non, c'est un trou noir. Cette affaire de canal, c'est un trou noir dans lequel on a beaucoup de mal à se faire une opinion. Il y a eu une étude d'impact qui a été faite par une compagnie britannique, qui apparemment est sérieuse, mais dans ce registre-là, on peut contester. Il y a évidemment une grande inquiétude pour l'environnement, c'est une évidence. Ceux qui défendent le canal vous disent, mais sur la salinisation, par exemple, il va y avoir la création d'un lac artificiel à Atlanta pour éviter la salinisation, mais je suis pas technicien, je peux pas vous dire si c'est du bon, si c'est du bon. L'intérêt principal, c'est pour les Chinois, en réalité. Faut pas oublier que le canal de Panama, il est toujours sous le contrôle des États-Unis. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis ont rendu le canal au Panama, 31 décembre 99, il y a une mention qui stipule qu'en cas de danger sur le canal du Panama, les États-Unis se réservent le droit d'intervenir. Évidemment, ça sera pas la même chose avec la concession faite aux Chinois. Étant entendu que s'ils veulent intervenir au Nicaragua, ils interviendront au Nicaragua de toute façon. Ça, c'est pas le problème. Après, dans les quelques arguments positifs qui sont donnés, c'est effectivement le... Alors on vous dit, au contraire, ça va favoriser l'environnement. Alors là, je cautionne pas, j'en sais rien. Mais ça va réduire de 900 km le trajet des navires américains. Bon, franchement, là, il y a un vrai débat, et surtout sur le thème de l'environnement. Bon, il y a un point qu'on n'a pas abordé, en écoutant, là, ça m'est venu dans... ce que je considère comme un aspect positif. Alors je ne sais pas si c'est le politique d'Ortega. On est dans une région du monde qui est complètement ravagée par l'insécurité. Il y a ce qu'on appelle le triangle nord, qui est le Guatemala, le Salvador, le Honduras, où on a les taux de criminalité les plus élevés du monde, sans parler du Mexique. Et le Nicaragua est resté relativement protégé du narcotrafic, de la grande délinquance, de ce qu'on appelle les maras, les bandes de délinquants ou Honduras. Et là, d'une certaine manière, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis finalement sont pas si offensifs que ça contre Daniel Ortega. Narcotrafic, il y en a, en particulier sur la côte Caraïbe, dans ce qu'on appelle la Mosquitia, qui est la partie habitée par les Mosquitos. Pas parce que les Mosquitos sont des narcotrafiquants, mais parce que c'est la géographie s'y prête. Mais ça, c'est un point important, parce que quand on regarde le désastre régional, on constate que le Nicaragua, finalement, est sans doute le mieux loti dans le coin. Je ne parle pas du Costa Rica ou du Panama.
Mais c'est vrai que comparé au Honduras ou au Salvador, Kevin Partenay, en conclusion.
Oui, non, c'est sûr que c'est un îlot de sécurité et de paix encore dans la région comparé à ses voisins du Nord. Ça, c'est sûr. Et il y a des héritages du sandinisme aussi qui sont à évoquer, mais on n'a peut-être pas le temps d'y revenir là. Il y a beaucoup de sujets qui, évidemment, se posent aujourd'hui pour le Nicaragua, qui se posent aussi, et je pense que c'est important de le repositionner dans son paysage régional, comme un laboratoire de la démocratie et un laboratoire du positionnement de la région sur la scène internationale. Donc les élections vont nous dire beaucoup, les élections vont apporter peut-être des indications sur ce que seront les prochaines années ou prochaines décennies. En tout cas, c'est un laboratoire extrêmement intéressant à observer. Et à ce titre-là, l'observation des questions démocratiques et puis tous ces méga-projets et les relations avec les voisins américains, et c'est très juste ce que disait Maurice Lemoine sur le fait que, étant donné qu'il y a moins de violence, il y a moins d'immigration aussi, des mineurs, c'est la question des mineurs du Triangle Nord, ce qui a principalement fait bouger les États-Unis pour ce programme d'Alliance pour la prospérité. Aujourd'hui, le Nicaragua est un petit peu à distance, mais toujours, on voit que les États-Unis peuvent intervenir. C'est le cas notamment du NICA Act qui a été signé la semaine dernière par le Congrès. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et c'est un pays vraiment à garder dans le radar, en tout cas pour les mois et les années qui viennent.
Le NICA Act, je parle sous votre contrôle, à l'un et à l'autre, qui permet aux Américains d'ouvrir ou fermer les robinets de prêts au Nicaragua,
la
Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
Banque interaméricaine de développement, etc.
Voilà, donc qui permet à Washington toujours la mainmise sur ces robinets financiers
monétaires. Dans le registre du gros...
Très rapidement, Maurice Lemoine.
Ça allait être court. Non, qui dans le registre du gros bâton correspond aussi au décret qu'a fait passer Obama il y a deux ans maintenant sur le fait que le Venezuela constitue un danger pour la sécurité nationale des États-Unis, ce qui fait rire tout le monde, mais qui néanmoins donne une ambiance, un ton.
En tout cas, on n'est pas sur le même ratio en termes de population avec le Nicaragua, un pays de 6 millions d'habitants. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Kevin Partenay qui était avec nous en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France Poitou, que nous remercions au passage pour leur accueil.
Merci.
Kevin Partenay qui est rattaché au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, responsable pédagogique de Sciences Po Campus Poitiers et membre de l'Observatoire politique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, l'OPALC, et Maurice Lemoine, journaliste et écrivain spécialiste de l'Amérique latine, auteur de plusieurs ouvrages, dont Les enfants cachés du général Pinochet, paru aux éditions Don Quichotte. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée au lien entre agriculture et climat, à la veille de la conférence climat, la COP 22, qui se tient au Maroc. À samedi prochain.